Voilà, je vous propose de commencer ce temps par la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous donnes ton esprit. Merci parce que ton esprit est un esprit qui console, un esprit qui nous rétablit dans notre être intérieur, et c'est un esprit qui nous envoie dans le monde pour être témoin. Et Seigneur, ce que nous te demandons, Seigneur, c'est que ta parole nous rétablisse, mais aussi nous donne d'agir en justice, en vérité, selon ce que tu es, selon ta personne. Nous te remercions, Seigneur. Bénis ces moments, dispose nos cœurs, Seigneur, à ce que nous puissions agir selon ce que tu veux pour nous. Merci, Jésus. Amen. Voilà, au cours des deux derniers messages que j'ai eu l'occasion d'apporter, eh bien, dans un premier temps, nous avons pu voir, donc, suite à la lecture de l'Épître aux Colossiens, que ce qui était important dans notre foi chrétienne était de tout centrer sur Jésus-Christ, et que toute activité, que toute action que nous faisons qui n'est pas centrée sur Jésus ne fait que nous éloigner toujours plus de Jésus et de son œuvre ici-bas, de son œuvre qu'il a prévue pour nous. Et puis nous avons vu qu'une fois que nous avons tout misé sur Jésus-Christ, la dernière fois nous avons vu que nous nous trouvons donc intégrés, greffés à l'Église universelle, et que cette Église universelle se manifeste de façon physique, de façon concrète, dans le cadre de l'Église locale. Nous avons vu que cette Église locale, malgré ses imperfections, était amenée à nous sanctifier, à nous transformer, à ce que nous ressemblions toujours plus à ce que le Christ attend de nous. Et nous avons vu aussi que cette Église locale avait besoin d'être fondée donc, sur la parole de Dieu, sur l'Écriture, sur la communion fraternelle, donc prendre soin des frères et sœurs, apprendre à écouter les frères et sœurs qui sont là pour nous amener à mûrir, à grandir, à nous approfondir dans la foi, que cette Église avait aussi un rôle de service, d'action vis-à-vis des frères et sœurs, que nous devions prendre soin de ceux qui sont tout d'abord au, soin de l'église, au sein de l'Église, dans le cadre de la diaconie, et que ceux qui formaient cette unité étaient formés dans la prière. Donc c'était acte 2, 42, que nous avions développé pour voir de façon plus concrète comment l'Église avait besoin d'être tournée vers son intérieur, déjà être au clair avec elle-même, avant de partir dans le monde. Et si nous avons prêté attention à la façon dont le Seigneur nous a parlé ce matin au cours des chants, au cours de nos prières, eh bien j'ai été assez étonné de voir que bien, le thème que spontanément deux frères ont apporté ce matin était cette fois-ci que nous formions une nation sainte. Donc ça s'écrit par un chant dans le cadre d'une parole qui nous a été donnée de la part du Seigneur. Et donc j'aimerais continuer à inscrire cette prédication de ce matin en montrant que nous sommes bel et bien une nation sainte, et que le rôle d'une nation n'est pas seulement de rester enfermée sur elle-même, mais le but est de se tourner vers l'extérieur. Donc si la semaine dernière, enfin, si la dernière fois nous étions tournés vers une Église qui a besoin de se trouver déjà vers l'intérieur, maintenant j'aimerais que nous ouvrions pour regarder comment l'Église peut rayonner en dehors de ses murs. Une Église en bonne santé n'est pas une Église qui cherche à faire du nombrilisme. Le but, ce n'est pas simplement de regarder vers nous-mêmes en nous disant que nous sommes bien, que nous sommes des braves gens. Et je crois que la tentation est grande, bien souvent, de vouloir regarder vers nous-mêmes et ne pas chercher à sortir de notre zone de confort. Mais je crois qu'une Église en pleine santé est une Église qui enfante, est une Église qui se tourne vers l'extérieur, une Église qui est rayonnante vers le monde. Et j'aimerais vous mettre en garde contre cette parole, contre cette attitude que bien souvent nous pouvons avoir, de simplement nous imaginer que nous sommes de bons chrétiens, de bonnes chrétiennes, simplement parce que nous venons le dimanche matin, et je crois que c'est très bien, je vous encourage à être là chaque dimanche matin, à être là à l'heure, mais si nous pensons que nous sommes de bons chrétiens simplement parce que nous sommes là sur ces rangs d'église et que nous sommes là à l'heure, ou bien que nous pensons que nous sommes de bons chrétiens simplement parce que nous faisons une activité uniquement dans le cadre de l'Église, eh bien je crois que nous leurrons. Et je maintiens que ce que j'ai dit la dernière fois est quelque chose de tout à fait juste. Nous avons chacun notre responsabilité au sein de cette Église. Nous avons notre devoir de nous impliquer chacun avec notre identité, notre culture, notre façon d'être au sein de l'Église. Mais je crois que nous ne pouvons pas nous contenter uniquement de nous justifier simplement parce que nous sommes intégrés dans l'Église locale. Le but n'est pas de voir uniquement ce que nous faisons au sein de l'Église pour nous rassurer et nous dire que nous sommes bien parce que nous faisons telle ou telle chose, mais le but aussi est de pouvoir regarder tout ce que nous ne faisons pas, de pouvoir regarder aussi ce que nous avons peut-être pu faire pendant un temps et ce que nous avons pu lâcher. Comme nous l'avons vu la dernière fois, nous avons besoin que chaque membre s'engage dans le cadre de la communauté locale, mais le but n'est pas uniquement de nous tourner vers ce que nous pouvons faire ensemble. Le but d'avoir une église où chacun s'investit est afin qu'elle puisse être un lieu de ressourcement, un lieu de formation, un lieu où nous prenons soin des uns des autres, mais non pas pour, dans le but uniquement simplement de se dire qu'on est bien et que c'est agréable d'être ensemble, mais le but c'est de nous exciter à la charité, dit un texte biblique, le but c'est de vraiment nous encourager pour que nous puissions nous former, nous encourager, mais dans le but de nous tourner vers l'extérieur. Parce que nous sommes réunis ici pas plus de 4 heures par semaine, ensemble, pour ceux qui viennent à l'étude biblique et ceux qui viennent au culte, mais après, pendant tout le reste du temps, nous sommes à l'extérieur, nous sommes dans le monde, nous sommes dans notre famille, nous sommes au milieu de nos collègues de travail. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que vous avez vu, alors j'en avais parlé la dernière fois, mais j'en avais parlé aussi à l'étude biblique il y a 3 semaines maintenant, vous savez, l'épître de Jean, pardon, l'évangile de Jean, Jean 1 et 2, nous dit que Jésus était tourné vers son Père, et il se nourrit de sa relation avec son Père, et puis donc verset 1 et 2, c'est Jésus qui est tourné vers le Père, et puis à partir du verset 3, on se rend compte qu'il se tourne vers la création. Eh bien, je crois que le but de l'Église, c'est ça, c'est de prendre un temps où nous tournons les uns vers les autres ensemble pour être en relation avec Dieu, pour nous souvenir que nous trouvons notre intimité avec Dieu. Mais le but, comme Jésus, qui est envoyé vers le monde, eh bien, que ce but de l'Église soit un temps où nous faisons du bien spirituellement les uns les autres, où nous nous édifions, où nous trouvons notre identité en Dieu. Mais le but n'est pas simplement de nous trouver les uns les autres, mais nous trouver les uns les autres pour pouvoir ensuite apporter la lumière dans ce monde. Nous sommes Église car nous avons l'Esprit de Christ, et cet Esprit, c'est celui qui nous envoie dans le monde. Nous sommes animés par l'Esprit de Christ qui est un esprit missionnaire. C'est le Seigneur qui nous envoie dans le monde. Nous sommes envoyés dans le monde comme Jésus lui-même y a été envoyé et comme Jésus nous ordonne de pouvoir y aller. Il y a ce texte de l'Évangile de Matthieu au chapitre 28. Vous savez, l'Évangile de Matthieu se termine ces 2 derniers versets comme un évangile missionnaire. Et les 2 derniers versets de l'évangile de Matthieu dit, donc Matthieu chapitre 28, verset 18, c'est Jésus qui parle et il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc, non seulement pendant ce temps merveilleux que nous passons ensemble, mais même lorsque nous sommes envoyés dans le monde. Mais le Seigneur nous envoie dans ce monde, et il nous appelle à ne pas nous faire d'illusions. Il sait que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est corrompu, qui est perverti. Et nous avons cette parole de l'évangile de Jean, au chapitre 17, les versets 14 à 19, mais ne cherchez pas, je vous le lis. Et Jésus fait cette prière lorsqu'il envoie les chrétiens dans le monde et il dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. » Cette parole, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Nous sommes donc bien envoyés en mission dans le monde. Nous avons donc une responsabilité vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons, celle de montrer par notre attitude que nous sommes d'une nature différente, de montrer par notre attitude que nous sommes animés d'un esprit différent, que nous avons une motivation, une orientation qui est différente. Si nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes effectivement bel et bien dans le monde. Physiquement, nous n'avons rien qui nous sépare de ce monde. Nous sommes faits de la même chair, de la même nature physique. Mais parce que nous sommes animés d'un esprit différent, notre pensée, notre orientation, nos motivations seront, elles, orientées vers une finalité qui est autre. Nous savons que le but de ce monde est orienté vers le plaisir que les gens peuvent trouver. Nous savons que le but de ce monde est aussi orienté vers les finances. Nous allons bientôt avoir la fête de Noël, et Noël n'a pas forcément le même but que celui que nous avons en tant que chrétiens. Nous fêtons la venue du Fils de Dieu ici-bas. Noël est un temps de dépouillement. Normalement, le cadeau de Noël, vous savez, c'est un moment où on se dépouille pour donner quelque chose à quelqu'un. Le but de ce monde n'est pas forcément ça. Le but est d'engranger de l'argent, le but est de faire la fête, de jouir d'un bon moment. Mais dès maintenant, nous, en tant que chrétiens, parce que nous sommes animés de l'Esprit de Christ et que nous savons que Christ aime sa création, eh bien nous pouvons être lumière de Jésus en dehors des murs de l'Église. Nous avons la grâce de connaître Jésus-Christ, nous avons la grâce de connaître quelles sont les règles du royaume de Dieu. Eh bien, je crois que dès maintenant, parce que nous sommes en connaissance de ces règles, nous avons le droit, nous avons le devoir, et non pas seulement le droit, mais plutôt le devoir de pouvoir, dès maintenant, annoncer le royaume de Dieu par notre présence dans ce monde. Nous croyons qu'un jour le Christ va régner ici-bas, mais nous croyons que dès maintenant, le Christ règne sur l'Église, et nous pouvons donc, par notre attitude, par la nature qui nous anime, annoncer, édicter dès maintenant une règle différente. Et c'est donc dès maintenant que nous devons modifier notre éthique, nous devons modifier notre attitude, parce que si le Christ règne dès maintenant sur notre vie, alors nous sommes invités à le montrer par des actions qui reflètent la justice divine. Et je crois que l'Église a dans son essence, parce qu'elle est animée de l'Esprit de Dieu, cet esprit de prophétie, c'est-à-dire que l'Église a dans son ADN, son identité, un message prophétique à annoncer au monde. Vous savez, lorsque l'on fait cette prière du Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous le disons au présent, que ta volonté soit faite. Donc notre rôle en tant qu'Église est dès maintenant d'annoncer la justice du royaume des cieux, et nous avons une responsabilité particulièrement grande parce que nous ne sommes pas encore dans le monde racheté, mais dès maintenant nous pouvons, par notre attitude, indiquer qu'un jour le Christ règnera et qu'il viendra établir la justice. Nous sommes donc comme une colonie qui annonce par avance ce que sera le royaume des cieux. C'est-à-dire que dans notre relation au monde, nous pouvons porter notre responsabilité de rendre témoignage auprès de ceux qui nous entourent. Vous savez, les collègues de travail, la famille, les amis, nous pouvons dire dès maintenant que le monde n'est pas orienté vers la finalité vers laquelle ce monde veut s'orienter, mais que nous sommes orientés vers une finalité qui est différente. Nous pouvons, par notre attitude, par notre geste, par notre pensée, pouvoir affirmer que ce monde est orienté pour rendre gloire un jour à Jésus-Christ. Nous avons donc ce devoir, par notre attitude, de rétablir l'harmonie que Dieu veut entre Dieu et les hommes, mais aussi l'ensemble de la création. Et cette harmonie, nous le faisons en rendant témoignage de ce qu'est Jésus-Christ. Alors, rendre témoignage, je crois que ce n'est pas uniquement parler et dire, vous savez, aller voir les gens et leur dire que l'on est chrétien. C'est très bien, je crois, et je vous encourage à pouvoir dire, lorsque l'occasion se présente, que vous êtes chrétien, chercher toutes les occasions favorables pour pouvoir rendre témoignage oralement de celui à qui nous appartenons. Et en ce moment, vous savez, vous avez le Conseil national des évangéliques de France qui essaye de représenter ce que sont les milieux évangéliques, qui est en train de faire une campagne qui s'appelle « Libre de le dire ». Et nous réaffirme ce droit que nous avons le droit de dire dans le cadre du travail, de le dire dans le lycée, de le dire dans l'université, que nous avons tout à fait le droit de dire et d'exprimer que nous sommes chrétiens. Bien sûr, ça doit se faire dans le respect des personnes et des identités que nous avons en face. Et c'est très bien, je vous encourage à le dire oralement. Mais à un moment, ça ne sert à rien de rabâcher. Vous savez, lorsque vous avez parlé à votre famille, lorsque vous avez parlé à vos amis, à vos collègues de travail, à un moment, voilà, vous êtes chrétien, c'est bien, vous l'avez dit. Mais si vous le répétez un peu trop, je crois que vous allez même offusquer, vous allez même à un moment pousser les gens à vous rejeter. Ce que les gens attendent, ce ne sont pas des paroles, ce que les gens attendent de votre part, c'est que vous puissiez le démontrer de façon physique, de façon concrète, par des actions. Prendre témoignage, c'est être pratique. Dans le cadre de son travail, par exemple, c'est être droit, c'est rendre service. ce n'est pas critiquer tout le temps tout ce qui se fait et en vouloir sans cesse au patron en disant que le patron est injuste et tout ça. Bref, c'est avoir une attitude qui reflète réellement ce que serait Jésus au milieu de notre travail. Montrer aussi que ce n'est pas l'argent qui nous motive. Alors bien sûr, je crois qu'on a besoin d'avoir à manger dans son assiette, mais le but, vous savez, par exemple, je ne sais pas si vous êtes dans une relation commerciale, le but n'est pas de chercher à entourlouper dès que vous avez l'occasion un client, mais d'être droit, d'être juste et de montrer que l'on peut agir différemment. Je suis en train de penser, là, par exemple, les Quakers, qui est une branche chrétienne, qui était une branche chrétienne très engagée au XVIIe siècle, avaient la réputation, parce qu'ils ne pouvaient pas mentir. Vous savez, quand on est chrétien, on n'a pas le droit de mentir. Alors, pour garder des contrats et pour pouvoir vendre leurs produits, eh bien, plutôt que de vendre en masse, eh bien, ils ont décidé de faire des produits qui étaient plus chers, mais qui avaient même la réputation, vous savez, entre autres, ils faisaient beaucoup de vêtements, ils avaient même la réputation que non seulement on gardait son vêtement pendant la vie, mais que son enfant allait même pouvoir en hériter. Alors, aujourd'hui, je ne vous encourage pas à redonner vos habits à vos enfants, sinon ils se faire la tête, mais en tout cas, je vous encourage voilà, à avoir une relation authentique, vraie, avec les gens qui sont autour de vous. Être juste, aussi dans le domaine de la famille, vous savez, ça ne sert à rien si votre famille n'est pas chrétienne, de chaque dimanche midi, quand vous les avez en face, à la table, en face de vous, ça ne sert à rien de leur dire « Ah, tu sais, je t'aime, je prie pour toi, machin ». C'est bien, faites-le, mais ça ne sert à rien de leur dire. À un moment, vous allez offusquer votre famille. Mais par contre, montrez que ben, vous êtes capable d'entendre lorsque votre enfant a un problème, lorsqu'il fait des choses qui ne sont pas du tout chrétiennes, mais montrez-lui que vous l'aimez. Votre attitude sera quelque chose qui va pouvoir le gagner. Sauvons les gens, non pas par nos paroles, mais réellement par nos actes. Il faut que les gens puissent savoir que lorsque l'on est chrétien, on est quelqu'un vers qui on peut se confier, quelqu'un qui aime réellement, véritablement, même lorsque les choses nous dérangent personnellement. Je vous encourage aussi à cesser de regarder ceux qui sont dans notre entourage simplement aussi comme des proies à dévorer. Vous savez, pendant je me souviens avoir entendu quelquefois des gens en disant faites tout, allez voir les gens simplement comme uniquement des gens à évangéliser. Je crois que c'est un manque d'authenticité. Il y a 2 ans, j'ai une collègue de travail qui était partie pendant quelques mois suite à un congé maternité, et puis elle revient réintégrer le rayon. Elle me dit, mais comment ça se fait que tu bosses 3 jours par semaine? Je lui dis, je fais des études pour un jour devenir pasteur, tout ça. Elle me dit, ah, alors tu es chez les évangélistes, c'est ça? Je lui dis, oui, les évangéliques. Je reprends. Voilà. Elle me dit, ah, mais j'ai connu des gens comme ça dans mon entourage. Et puis elle me raconte que tant qu'ils pouvaient s'imaginer que Marie allait un jour franchir la porte d'une église, eh bien, il l'invitait à manger, il lui mettait un peu de pression pour qu'elle vienne rejoindre l'église. Puis une fois, Marie est venue à l'église, elle est tombée sur un milieu qui n'était pas forcément le plus, le lieu pour intégrer une personne nouvelle. Et puis, ben, aussitôt que Marie a dit, moi ça ne m'intéresse pas, ben, les gens ont coupé les ponts avec. Je pense que c'est un manque d'authenticité. Et je me pose la question de quelle était la motivation de ces personnes. Est-ce bien une relation d'amour que l'on doit avoir avec le monde? Ou est-ce qu'on veut simplement utiliser le monde en pensant qu'ils ne sont que des proies à ravir? Je vous rappelle que l'évangélisation, c'est annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle n'est pas une nouvelle simplement qui condamne, mais une nouvelle qui aime en tout temps. Soyons respectueux des personnes que nous avons en face de nous. Alors comment le faire? Eh bien, je reprends un point que j'avais déjà développé la semaine dernière, mais je crois que ce point est un point qui est essentiel. La première étape, je crois qu'il tourne vers l'extérieur, qui nous pousse à regarder vers le monde, eh bien c'est la prière. Je crois qu'avant de franchir la porte de chez nous, en nous disant « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour Jésus-Christ ?» eh bien je crois que c'est tout d'abord en nous tenant à l'écoute de ce que Dieu veut. Parce qu'on peut avoir certaines fois des beaux projets, des projets qui sont bons, qui nous paraissent intelligents, et ce projet ne pourra pas aboutir si ce n'est pas Dieu qui est à son origine. Il y a ce texte d'Ésaïe au chapitre 30 et au chapitre 33 qui nous dit « Vous faites des projets qui ne viennent pas de moi. Vous ne conservez que du foin. Vous n'enfantez que de la paille. » Parce que bien souvent, vous savez, on a tendance à croire que « Mais j'ai qu'à faire ça, je suis convaincu que c'est Dieu qui me demande de le faire. » Vous savez, on ne prend pas forcément le temps de se dire, mais est-ce que c'est bien le temps voulu par Dieu? Est-ce que c'est bien ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui? Est-ce que ça correspond aussi à ma façon de faire, à ma façon d'être? Et je crois qu'en nous tenant à l'écoute dans la prière de ce que Dieu veut, eh bien Dieu pourra nous donner à un moment une conduite qu'il veut pour nous particulièrement, qui nous corresponde, dans laquelle nous pourrons aussi nous épanouir. Je crois donc qu'il est essentiel de prendre un temps individuel avec Dieu avant de se lancer dans nos activités, dans nos actions, afin que, vous savez, comme Jésus qui est tourné vers le Père, que nous soyons nous aussi tournés vers ce que le Père veut pour le monde. Ce temps de prière est un temps qui peut être individuel. Je crois aussi que dans le cadre de l'Église, c'est un temps qui peut être aussi communautaire. Je crois que c'est bon, vous savez, lorsque, par exemple, on a la réunion de prière, ou si demain nous aurons des groupes de maison, peut-être un moment de réfléchir, mais qu'est-ce que Dieu veut pour nous particulièrement? Comment on peut se démarquer, être témoin et chercher un moment dans la prière, à voir que Dieu puisse nous parler, parce que Dieu parle lorsqu'on le prie, lorsqu'on le cherche. Je pense aussi, éventuellement au moment de jeûne, la semaine prochaine, nous serons le premier dimanche du mois, nous avons un temps de jeûne et de prière ensemble après le culte. Je vous encourage, si le temps vous le permet, si votre santé vous le permet aussi, à être présent, que nous puissions prendre à cœur les sujets qui sont pour l'Église, mais aussi prendre à cœur pour que nous puissions avoir une conduite commune, communautaire en tant qu'Église, pour savoir comment être témoin au milieu de ce monde. Prier, donc, c'est chercher quelle est la volonté de Dieu, et toute action doit être préparée dans la prière, que notre prière et notre désir profond soit toujours d'être utilisé par Dieu. Jésus même dira, je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé, dans l'évangile de Jean. La prière aussi, je crois, nous sommes encouragés à la vivre pour ce monde. J'aimerais qu'on puisse prendre le texte de 1 Timothée, au chapitre 2, et je lirai les versets 1 à 7. Donc 1 Timothée, chapitre 2, et à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et par lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Nous avons donc cette responsabilité aussi de prier pour le monde. En tant que chrétien, nous avons une vision beaucoup plus affûtée sur les problèmes de la société, parce que nous sommes en relation avec celui qui a créé le monde. Nous pouvons discerner ce qui ne va pas, ce qui peut clocher dans les situations qui sont dans le monde. Et nous ne sous-estimons pas la prière. Prenons en compte que lorsque nous voyons des situations qui dégénèrent dans ce monde, prenons en compte que lorsque nous prions, notre prière est réellement puissante, que Dieu l'entend, que Dieu pourra apporter une solution pour ce monde. Prenons le temps de prier pour notre pays, je pense particulièrement avec les événements douloureux par lesquels nous passons, en prenant conscience que il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont à la base de ce qui s'est passé, et peut-être, je l'espère pas, mais peut-être qu'il y aura encore d'autres choses comme cela qui pourront se passer. Eh bien, prions pour que nos autorités puissent prendre en compte la société dans laquelle nous sommes et qu'elle puisse, elle aussi, apporter des solutions. Vous savez, ce texte nous dit que nous pouvons prier pour les autorités pour qu'ils soient inspirés pour prendre les bonnes décisions. Et je crois qu'il est beaucoup trop facile de critiquer ce qui ne va pas, et je crois qu'effectivement, il y a forcément des choses qui ne vont pas, certaines choses que nous pouvons critiquer et qui pourraient être justes, je crois, dans la critique. Mais le but, je crois, n'est pas simplement de critiquer gratuitement en disant « rien ne va plus, tout va mal ». Mais être chrétien, c'est voir ce qui ne va pas bien et que nos critiques soient orientées dans la prière en disant « Seigneur, effectivement, il y a telle injustice et telle injustice » et que nous l'abandonnions à Dieu dans la prière plutôt que d'être dans une simple critique qui dise « tout va mal » parce que sinon nous ne ferons jamais rien mieux que les païens qui critiquent mais qui n'ont pas d'autre solution à apporter. Oui, il y a des choses qui nous dépassent, mais n'ayons pas peur de prier pour ces choses. Et je crois que nous n'avons pas seulement à nous plaindre de ce qui est injuste quand on est chrétien, mais je crois aussi qu'à la lecture de ce texte, eh bien, lorsque nous voyons des choses qui ne sont pas bien, eh bien, impliquons-nous, engageons-nous pour qu'il y ait plus de justice. Oui, il y a des choses qui sont injustes sur cette terre, mais je crois aussi que cette prière, petit à petit, nous conduit, lorsque nous allons prier pour que le Seigneur rétablisse la justice, eh bien, nous nous sentons à un moment nous-mêmes, à l'échelle qui est la nôtre, suivant la vocation qui est la nôtre, à travailler pour qu'il y ait plus de justice. Lorsque nous avons lu ce texte de Timothée, vous savez, ça commence par prier pour les autorités et tout ça, et puis à la fin, vous avez à un moment une parole d'envoi, à un moment, c'est marqué « C'est pour cela que j'ai été envoyé en tant qu'apôtre ». Et je crois que nous aussi, dans la continuité de cette parole apostolique, Dieu envoie son Église pour que nous puissions nous aussi nous intégrer dans la société, être celle de la société, pour aller nous orienter vers plus de justice, établir la justice dans la mesure qui sera la nôtre. Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte, que notre prière, lorsque nous voyons des choses qui sont injustes, ne se contente pas à dire « il y a des choses qui sont injustes, mais qu'est-ce que moi, Seigneur, maintenant je peux faire pour établir aussi la justice ici-bas en tant qu'Église ?» Nous sommes donc invités à prier, mais aussi à avoir une prière qui est agissante, une prière qui trouve sa force aussi dans l'action que nous allons pouvoir mener. Ce monde dans lequel se passe tellement d'injustices devient aussi à un moment un véritable terrain dans lequel nous pouvons nous impliquer pour pouvoir montrer comment nous pouvons appliquer le royaume des cieux dès maintenant ici-bas. Prier, c'est bien, et comme je l'ai dit, je vous encourage fortement à le faire, mais prier aussi, c'est incarner l'Église à un moment dans le monde, montrer qu'il y a une Église, que l'Église est le levain de cette terre, qu'elle lève, qu'elle est capable de transformer, de modifier les choses, qu'elle se rend présente dans le monde. L'Église est amenée à s'offrir dans le monde pour son service, pour montrer que nous aspirons à une autre société. Alors je vous encourage à être présent dans tous les débats de la société, là où, à un moment, votre cœur, là où moment où vous sentez qu'il y a une injustice ici-bas, eh bien, comme les prophètes de l'Ancien Testament qui avaient une parole qui dénonçait l'injustice, mais qui en même temps étaient capables de s'impliquer dans des actions concrètes, j'aimerais vraiment vous encourager à avoir ce rayonnement dans le monde. Nous sommes celles de la terre, notre parole, nos actions sont précieuses. Et comme le disait Jean 17, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Effectivement, tout ce que nous dirons ne sera pas forcément entendu. Et même si nous avançons petit à petit sur certains domaines, prenons conscience que ce n'est pas rien, ce n'est pas moindre, mais nous avons réellement une parole, un témoignage à apporter. Je vous encourage aussi à faire bien attention à ce que la parole que nous allons apporter dans le monde ne soit pas une parole qui soit, comme je vous le disais, simplement une critique qui laissera entendre que nous sommes meilleurs. Nous sommes, nous aussi, dans le monde, c'est-à-dire que nous ne sommes pas du monde. Et je vous encourage à ce que notre parole ne soit pas une parole simplement qui soit critique, mais que notre parole soit réellement source de vie. Soyons rebelles contre l'injustice, mais ne soyons pas simplement rebelles, vous savez, simplement, comme je vous le disais, en critiquant, en disant « Oh, mais moi, je ne veux pas faire ça parce que c'est pas bien, c'est pas beau. » Mais à ce que notre parole soit réellement une parole de vie, une parole qui donne envie, non pas seulement une parole, vous savez, qui se met en opposition, mais une parole qui dit « D'accord, je comprends bien là où est le problème, et mon but n'est pas seulement de dire que ça ne va pas, mais comment moi je peux faire pour apporter la vie là où il y a un message de mort ?» Je voyais une annonce, une bande-annonce d'un film cette semaine. Donc j'étais avec un ami qui est missionnaire auprès des musulmans. Et il y a un film que, en tout cas, je vous encourage à voir, particulièrement dans le débat de société dans lequel on est, qui s'appelle « La désintégration ». Alors, je ne l'ai pas encore vu, je crois que ça va être l'un des prochains films que je vais voir, qui raconte, vous savez, comment des jeunes de quartier, d'origine musulmane, tout d'un coup, à un moment, se rendent compte que la société française dans laquelle on est une société injuste, parce qu'effectivement, quand on s'appelle Mamadou ou Hicham, on a beaucoup moins de chances de trouver du travail, on a beaucoup moins de chances de s'intégrer dans la société. Et puis d'un coup, il rencontre un imam qui lui dit « Mais la société dans laquelle on est une société injuste. » Eh bien, face à cette société injuste, on t'encourage à intégrer les rangs du djihad pour te battre pour qu'un jour il y ait de la justice. Donc, c'est-à-dire se battre en faveur de la justice, concrètement, c'est à un moment mettre une ceinture d'explosifs autour des reins pour tuer les mécréants. Donc, le but de ces personnes n'est pas de faire une action qui est injuste, mais le but est de faire quelque chose qui, pour eux, dans leur tête, est quelque chose de juste. Et concrètement, est-ce que c'est juste d'agir ainsi? C'est complètement injuste. On est d'accord, ce n'est pas en accomplissant une autre injustice que l'on vient établir la justice. Et je crois que nous sommes là effectivement pour critiquer le monde. La motivation première, c'est une critique de ce qui ne va pas dans le monde lorsqu'il y a des abus économiques, lorsqu'il y a des orientations, lorsque des armes sont vendues pour faire la guerre, lorsqu'il y a, des phénomènes de société qui sont injustes. Osons les dénoncer, mais prenons attention de ne pas accomplir d'autres injustices, et en prenant conscience qu'effectivement nous sommes dans un monde injuste, mais engageons-nous pour plus de justice. Et j'aimerais justement vous offrir quelques pistes de réflexion pour voir comment nous pouvons à la fois critiquer ce qui est injuste dans le monde, mais en accomplissant des actions qui sont justes. Comme je vous le disais, le but n'est pas de critiquer pour accomplir des injustices, mais prenons conscience lorsque l'on voit des choses qui sont injustes, contemplons et disons à un moment, oui, c'est injuste, mais comment je vais pouvoir ne pas seulement critiquer, mais m'engager vers plus de justice. Je prends un cas très concret. Est-ce que vous croyez que Dieu a créé le monde pour qu'il y ait des SDF et des gens qui ont faim?
Non.
On est d'accord, Dieu n'a pas créé le monde pour que les gens, à un moment, se posent la question le matin en se disant « qu'est-ce que je vais pouvoir manger d'ici soir ?» ou pour que les gens dorment par moins 10 degrés dans la rue. Eh bien, si on croit que justement, là, il y a une injustice, je crois que le message de l'Évangile est aussi de nous battre pour plus de justice. Eh bien, je vous encourage, cette vocation est la vôtre, et si à un moment, vous sentez que nous avons à nous battre pour plus de justice, je vous encourage peut-être, si vous avez un peu de temps libre, à vous intégrer dans une association qui travaille dans la réinsertion sociale. J'ai appris, par exemple, qu'une association catholique sur les Sables d'Olonne prenait à cœur, le dimanche matin, je crois que c'est autour de 8h, à réunir les SDF de la ville pour leur offrir un petit déjeuner. Peut-être que si vous êtes matinal et que vous avez envie de passer un peu de temps en disant... ça fait partie, je crois, de la restitution, de la justice. Je ne sais pas, je donne des idées, je ne vous dis pas forcément de le faire, mais peut-être un moment de réfléchir comment je peux agir vis-à-vis de ces personnes. Hier, par exemple, je faisais les courses, et puis j'ai un moment, des personnes, vous savez, qui tendent le sac en ce moment pour la distribution alimentaire. Puis je passe, puis je me dis, est-ce que ça va, Et puis à un moment, je passe, puis je me dis, ça coûte rien, en fait, de mettre 70 centimes de plus, de prendre un kilo de pâtes, et puis de donner... je crois que ça fait aussi partie. Il y a des injustices. Ça ne veut pas dire que cette situation à laquelle sont ces personnes, que c'est une bonne situation, mais c'est justement parce que la situation n'est pas bonne que nous pouvons dire comment je vais pouvoir rétablir un peu plus ça. Je crois que c'est aussi un service qui est fait vers les plus faibles. Je me souviens de ce texte qui est raconté, je crois, par Irénée, un des pères de l'Église, qui dit que l'Église de Rome, au 1er siècle, donc l'Église de Rome qui avait un certain rayonnement, chaque jour distribuait 4500 repas pour les veuves, les orphelins et les démunis. Chaque jour, c'est assez intéressant de voir ça. Je pense par exemple aussi à nos aînés, alors que ce soit par le biais associatif, j'ai appris que la ville des Sables d'Olonne est passée devant la ville de Menton, donc nous sommes la ville qui aujourd'hui a le plus de personnes âgées, par rapport à la surface de la population, pourquoi pas ne pas intégrer, je ne sais pas si vous avez une capacité de dialogue, allez voir bénévolement, les foyers qui prennent soin des personnes âgées en disant, mercredi, je vais aller jouer au domino avec ces personnes, ou je pense que ça se fait aussi par le rôle de l'aumônerie, et si vous avez aussi ce talent, peut-être réfléchissez, formez-vous. Il y a l'aumônerie qui serait toute contente d'avoir des bénévoles, aussi soit à l'hôpital, soit dans les foyers pour personnes âgées. Bref, je vous encourage aussi, dans ce cadre de l'aumônerie, on est en ce moment aussi dans une réflexion, vous encourage à prier pour ça, pour savoir si nous allons ouvrir une aumônerie protestante sur le département de la Vendée, savoir si ça vaut le coup de le faire dans le statut protestant ou de travailler avec nos amis catholiques, puisqu'ils sont aussi ouverts à cela. Et ça sera l'une des discussions que l'on aura à la prochaine pastorale en janvier prochain. En fait, plus que par une action, je crois que c'est vraiment par un état d'esprit que nous pouvons nous démarquer dans la société dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire que je peux être dans n'importe quelle activité, si je me laisse conduire par l'esprit, si je considère que là où je suis un véritable témoin de l'Évangile, eh bien c'est alors à partir de ce moment-là que l'Église sera témoin. C'est à partir de ce moment-là que l'Église va pouvoir rayonner. Je pense même en des trucs totalement anodins, vous savez, même lorsque l'on fait des choses, par exemple pour se détendre, si votre plaisir c'est d'être dans un club de marche, si votre plaisir c'est d'être dans une équipe de foot, plutôt que de simplement reproduire le même message que font les gens, eh bien, montrons par notre attitude que nous sommes animés d'un état d'esprit qui est différent, que notre but n'est pas simplement de, si par exemple on fait partie d'une équipe de sport, de pas simplement critiquer l'équipe en face, mais quand elle joue bien, de savoir reconnaître, oui, on a peut-être mal joué, mais l'autre a bien joué, et osons lui dire. Trouvons toutes les occasions, dans nos activités, dans nos contacts avec les autres, pour montrer que nous sommes animés d'être d'un esprit différent. Être témoin dans ce monde, ce n'est pas un simple slogan, ce n'est pas uniquement faire du porte-à-porte, mais n'ayons pas peur, dans le monde, là où nous le sommes, de faire luire la lumière de l'Évangile par des actions qui sont justes, parce que c'est en aimant réellement les gens que les gens, à un moment, nous verront et nous diront, mais tu es différent des autres, qu'est-ce qui t'anime ? Alors, est-ce que vous voulez une église qui soit en croissance ? Est-ce que vous voulez une église qui soit influente autour d'elle ? Eh bien, cela dépend de l'engagement que nous allons pouvoir avoir. Le but, c'est de rendre l'église visible par notre attitude. Il ne faut pas croire qu'il suffirait de faire simplement des actions comme de l'évangélisation pour que l'église grandisse, mais bien qu'il suffirait d'avoir un bon groupe de louanges, d'avoir un bon prédicateur pour se dire « Ah, c'est cool, si on est tourné vers nous-mêmes, tout va bien se passer. » Mais l'Évangile est pratique, l'Évangile nous envoie dans le monde, l'Évangile nous envoie comme des lumières, vous savez, comme le phare, c'est quand vous regardez le phare qui est là-bas, si vous êtes au milieu de la mer, à un moment, vous le voyez, il y a une lumière, les ténèbres sont là, mais il y a une lumière qui est là. Nous sommes chrétiens, nous sommes la lumière du monde, nous brillons au milieu des ténèbres. Et c'est à partir du moment où nous saurons aimer ceux qui sont autour de nous que les gens spontanément vont être attirés pour franchir la porte de l'Église, pour se sentir à l'aise au milieu de nous. Alors parlons aux gens de Jésus, c'est très bien, faites-le par nos paroles, mais agissons aussi comme le ferait Jésus dans le milieu dans lequel nous sommes. Et très rapidement, avant même que nous ayons besoin de le dire, nous verrons les gens qui nous questionneront pour savoir pourquoi nous aimons ainsi, pourquoi nous agissons ainsi. Tournons-nous vers le Seigneur pour pouvoir resplendir de la personne telle qu'il est. Évangéliser, c'est annoncer une bonne nouvelle par la parole, mais par des actions. Soyons témoins, soyons véritablement témoins, là où nous le sommes, de ce qu'est le royaume de Dieu. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que, Seigneur, comme toi, tu étais le témoin en te tournant vers le Père et en venant ici et en manifestant ce qu'est le Père, eh bien, Seigneur, nous nous tournons vers toi parce que tu nous révèles qui est le Père. Tu nous révèles comment toi, tu as été toi-même au milieu de nous, au milieu de ce monde, comment tu soutiens toute chose par ta parole puissante, comment tu as édicté les règles de ton royaume. Et Seigneur, c'est vers toi que nous voulons nous tourner pour pouvoir mieux te connaître, pour pouvoir être témoin dans ce monde. Donne-nous, Seigneur, de t'aimer de tout notre cœur pour pouvoir aimer à notre tour ceux vers qui tu nous envoies. Donne-nous d'agir en vérité, en amour, Seigneur, auprès de ceux vers qui tu nous envoies. Nous te bénissons, Seigneur. Donne-nous la force de ton esprit pour pouvoir être là où tu le veux, quand tu le veux, comme tu le veux. Donne-nous de ne pas nous aigrir lorsque le monde nous rejette, mais donne-nous, Seigneur, de ne pas nous lasser, en sachant, Seigneur, que notre source, que notre force est en toi. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.